aujourd'hui. RFI, grand reportage.
Olivier Sherman.
Une dizaine de policiers en tenue d'intervention marchent silencieusement dans une rue du centre de Paris. Il fait encore nuit. Ces hommes de l'OCRIEST, l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre, s'apprêtent à interpeller des individus dans un vieil immeuble parisien. Des logeurs et des passeurs de clandestins. Nous avons été exceptionnellement autorisés à suivre l'ensemble des opérations. Les policiers montent les 7 étages et 3 en bois. Il est tout juste 6h du matin. L'heure légale pour intervenir.
Police, ouvrez !
Bouge pas.
C'est la police, c'est la police.
Bouge pas.
Bouge pas.
Debout. Tes affaires, elles sont où dans l'appartement ?
Tes affaires, elles sont où ?
Ça fait 4 mois qu'il est ici.
4 mois ?
Ouais.
Debout.
Premier impératif, une fois à l'intérieur de cette chambre de bonne vétuste, identifier les occupants, assurer la sécurité des lieux et, comme l'exige la loi française, signifier les droits aux interpellés. Gilles, capitaine de l'OCRIEST.
Je suis en train de notifier les droits pour le placement en garde à vue de l'individu. Donc il a droit à s'entretenir avec un avocat, voir un médecin et faire prévenir un membre de sa famille.
C'est Claude qui l'a fait.
Tu veux faire un dans les poches ?
Vérifier si tu veux.
Pas de paquet de cigarettes,
tout
ça.
J'ai jamais.
Très rapidement aussi, le policier en charge de l'enquête signifie à l'interpellé les motifs de son arrestation.
On est là à la demande d'un juge de Paris. Dans le cas d'une affaire d'immigration clandestine. Donc là, on va le placer en garde à vue. On va faire une perquisition dans son domicile.
Les deux clandestins, les deux passeurs interpellés ce matin-là, réveillés dans leur sommeil bien profond, ne comprennent pas trop ce qui se passe. Ils n'opposent aucune résistance, répondent aux premières questions et sont emmenés en voiture au siège de l'OCRIEST en région parisienne pour être mis en garde à vue et interrogés.
Faut pas avoir peur, c'est pas grave. C'était quoi ton travail dans l'intérim ? Ménage des avions.
Ça fait 4 mois qu'il est ici.
Ok.
Toutes les personnes interpellées vont rester 4 jours en garde à vue et seront ensuite présentées au juge d'instruction. L'opération baptisée Incha est un succès pour le responsable de cette affaire, le capitaine Romain.
On a donc en 2 phases interpellé l'ensemble des objectifs qui étaient visés donc dans le cadre de cette filière. Le bilan il est très positif. On arrive à démontrer leur enseignement d'origine et ce qui a été établi donc lors de l'enquête.
C'est un travail qui vous a pris combien de temps ?
C'est un travail qui, au total, s'inscrit sur une durée, on va dire, d'une année. Sachant que la commission rogatoire a été délivrée au mois de décembre et que précédemment, donc, il y a eu une phase d'enquête préliminaire.
En chiffres, ça donne combien de personnes interpellées ?
En chiffres, on aboutit pour l'instant à une quinzaine de personnes interpellées. Le rôle de chacun est parfaitement établi, oui. Il y avait donc des personnes qui étaient en charge de l'organisation, plus d'autres plus en charge du logement et d'autres en charge de la fourniture de faux documents. Donc chacun a son rôle bien déterminé.
Ces opérations sont minutieusement préparées. Écoute téléphonique, filature, renseignements, surveillance, grâce à des caméras judicieusement installées sur les toits, dans les gares ou dans les aéroports. Il faut aussi coordonner les interpellations qui se déroulent si possible le même jour, à la même heure. Les détails sont finalisés lors du briefing, 36 heures avant les interventions.
Bonjour à tous, on est là pour procéder à la deuxième vague d'interpellation de l'affaire Incha. Comme vous le savez, c'est un réseau, une filière à majorité sri-lankaise qui fait partir des clandestins essentiellement sri-lankais vers la Grande-Bretagne ou le Canada. On va vous présenter les différents points. Cyril et Régis vont vous présenter les différents points. À vous de jouer. Premier point.
Ça concerne essentiellement un fournisseur de clients, des logeurs et des fournisseurs de faux doc.
La France devient l'une des plaques tournantes en Europe dans cette immigration clandestine. Pour lutter contre ce trafic et démanteler les réseaux, l'OCRIEST, donc l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre. Cet office est divisé en secteurs géographiques, Moyen-Orient et Europe, Chine, Asie méridionale, Amérique et Afrique. Le commissaire divisionnaire Jean-Michel Fauvergue, chef de l'OCRIEST, sous ses ordres, 115 personnes.
On s'est aperçu que les réseaux sont de plus en plus organisés, c'est ce changement-là qui est important, de plus en plus professionnel, et surtout qu'ils arrivent à rebondir de pays en pays sur des réseaux existants dans les pays. C'est une espèce de grande chaîne dans laquelle les maillons s'entrecroisent pour, au final, former de vastes réseaux. Donc, pour lutter contre ça, nous sommes investis dans la coopération internationale, énormément.
Et c'est aussi un réseau très lucratif.
Oui, tout à fait. Donc, il faut savoir que c'est le troisième réseau, après le trafic des stupes et le trafic des armes, c'est le troisième réseau le plus important au monde. Ça, c'est selon les chiffres de l'ONU. Et c'est un réseau qui est très lucratif financièrement et beaucoup moins payant en termes pénal que le trafic de drogue, par exemple. C'est-à-dire que nos délinquants, du point de vue pénal, risquent moins. Donc, ils s'investissent beaucoup plus dans ce domaine-là.
Un autre matin, très tôt, dans la fraîcheur de ce début d'automne, 5 hommes de l'OCRIEST en civil mettent en place un système de surveillance par caméra vidéo. Ce jour-là, c'est l'activité d'un square parisien qui doit être examiné. Joe, major à l'OCRIEST, sur un toit d'immeuble, décrit son dispositif.
Actuellement, on est en train de poser une caméra dite panaltique avec 360 degrés d'angle de rotation qui va nous permettre de surveiller de manière distante les équipes et les filières qui nous intéressent.
Et là, vous aviez dû faire donc des repérages avant.
Tout à fait, on ne peut pas improviser ce type de pose vidéo puisque il nous faut des autorisations préalables, il faut qu'on voit le terrain, les contraintes techniques qui y sont liées. Enfin, il y a toute une mise en œuvre préalable avant la pose proprement dite.
Un matin, près d'un square, aux abords de la gare de l'Est à Paris, un officier en civil, barbe naissante, en jean et en blouson de cuir, surveille le va-et-vient de deux étrangers. L'un semble être un passeur, l'autre un clandestin. Le capitaine Benoît, chef adjoint du groupe Moyen-Orient, Europe à l'OCRIEST.
La gare de l'Est est un lieu particulièrement important pour tous les clandestins, tant afghans, iraniens, qui savent depuis leur pays et quand ils débutent leur périple jusqu'à leur pays de destination, la Grande-Bretagne ou la Suède, ils savent qu'il faut se regrouper devant la gare de l'Est, dans le square à Villemain. Ce square donc, qui est très très connu et donc qui est le point de convergence tant des clandestins que des passeurs et des intermédiaires financiers qui sont des intermédiaires indispensables à la suite de leur trajet vers la Grande-Bretagne ou la Suède. Donc d'une part, il y a le square Villemain donc, qui est sur la gauche donc, de la gare de l'Est. Par contre, sur la droite, il y a aussi un autre square appelé le square Alban-Satragne. Lequel square Alban-Satragne, lui, est connu pour être le square des Kurdes. Des Kurdes irakiens, des Kurdes syriens qui tous se réunissent aussi là dans le cadre de leur périple vers la Grande-Bretagne ou la Suède.
Un autre soir, un tonton, selon le jargon de ces policiers, autrement dit un indique, les a prévenus qu'un maillon important de la chaîne de ce trafic clandestin venait de réapparaître dans la banlieue parisienne. L'équipe de l'OCRIEST doit faire vite et se rend rapidement sur les lieux. Il est 21h, le quartier est sensible, les autres policiers, cette fois en civil, ne traînent pas et décident d'interpeller.
Police, ouvrez ! Vous avez comment vous?
Écoutez, c'est bon.
Bah, monsieur Boutier, vous êtes en garde à vue?
Hein?
Vous êtes en garde à vue? Interprète?
Oui, je suis là.
Ah, voilà. Notifie à monsieur ses droits. Enfin, dis à monsieur qu'il fait l'objet d'une commission rogatoire.
Oui.
D'un juge de Paris.
Oui.
Pour aide à l'entrée au séjour irrégulier en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de l'aide au séjour en bande organisée, usage et contrefaçon de cartes bancaires, faux documents, détention, falsification,
அதாவது உங்களை வந்து ஆக்கல நாட்டுக்குள்ள எடுத்ததுக்கும் கள்ள காட்டுக்குள் பாதிச்சதுக்கும் கள்ள பாஸ்போர்ட் வேண்டதுக்கும்
இப்ப இருந்து உங்களை பிடிச்சு Et vous verrez qu'effectivement, on vous a vu, on vous a photographié, on vous a suivi.
Mais on a pas dit que nous avons dit, nous avons dit que
Ça fait un an qu'on est derrière vous, monsieur. On a tous les éléments contre vous. Donc c'est pas la peine de mentir.
L'individu est surveillé, menotté. Pendant ce temps, un autre policier commence une perquisition de l'appartement, le lieutenant Patrice.
J'ai récupéré ses affaires, parce que lui vient dormir ici souvent. Il m'a confié ses affaires, donc je perquisitionne son sac pour trouver des faux documents ou tout ce qui pourrait avoir attrait à la filière d'immigration. Voilà.
D'accord, vous espérez trouver quoi? Alors vous parlez de...
Surtout, des faux documents, des photos, l'argent, des papiers, enfin tout ce qui a attrait. Et les téléphones portables, c'est super important parce que nous, on travaille beaucoup sur la téléphonie, ce qui permet de cibler donc ces personnes-là. Et si on récupère ces téléphones, ça nous permet d'asseoir notre enquête.
Dans l'appartement, ce jour-là, les policiers affichent une certaine satisfaction. Une interpellation réussie, en douceur, sans résistance. Le résultat d'un travail minutieusement préparé. Isabelle, capitaine de police.
Effectivement, c'est un travail où on attend relativement longtemps, on apprend la patience. Pour l'individu de ce soir, ce charmant monsieur nous a gâché presque 7 soirées. On a passé presque une semaine derrière lui à l'attendre, sans jamais avoir de résultat. Pour le reste, il faut vraiment développer des grandes qualités qui sont l'attente, l'observation, être patient. Et quand le moment est là, il faut savoir y aller.
Et là, c'est payant, là.
Là, on est très content, effectivement. Là, c'est le bon plan ce soir. C'est totale réussite pour nous. Le logement, le monsieur, tout est bon.
Les pièces à conviction, les téléphones portables, ordinateurs, documents, photos, tout ce qui peut avoir un lien avec le réseau est ramené au siège de l'Ocriest. Pour les faux passeports, fausses cartes d'identité, entre autres, l'homme de l'office s'appelle Jean-Claude, adjoint administratif de police, spécialiste en détection de fraude documentaire.
Ça fait 18 ans que je travaille dans le domaine et je suis surpris quasiment tous les jours. Donc il y a 18 ans, les fraudes étaient pas très technique, les faussaires utilisaient des photocopieurs. Maintenant, les faussaires font aussi bien que les producteurs officiels, et cela va jusqu'aux films holographiques complètement contrefaits qui sont pour des personnes non averties quasiment indécelables. Donc on se retrouve avec des contrefaçons intégrales qui sont parfois plus belles que les originaux.
Le trafic d'immigrés clandestins vers l'Europe est un commerce qui rapporte beaucoup, et pour lutter contre les réseaux, la coopération internationale est indispensable. Le commissaire Sébastien Alvarez.
Chaque réseau a ses particularités. Pour vous donner un exemple d'une affaire récente, l'affaire Bagdad, qui a eu lieu au cours du mois de juin, donc c'est une filière irako-kurde. Donc il y avait un cheminement qu'on a réussi à établir, donc du Kurdistan irakien jusqu'en France, et bon, en l'espace les clandestins voulaient aller vers l'Angleterre ou les pays nordiques, et en fait il y avait une imbrication d'organisations de cellules criminelles les unes aux autres, hein, donc la cellule française qui était en lien avec la cellule belge, avec la cellule allemande, la cellule hollandaise, donc les unes s'imbriquent aux autres, et en fait ce sont des liens, je dirais, horizontaux et pas pyramidaux. Il n'y a pas vraiment une grosse tête de réseau en haut qui dirige tout, c'est plusieurs réseaux qui s'imbriquent les uns aux autres, et en fait les organisateurs nationaux s'échangent entre guillemets les clandestins.
Dans le cadre de cette opération Bagdad, la coopération internationale a parfaitement fonctionné, comme le souligne Thierry, le responsable à l'Ocriest de la branche Europe Moyen-Orient.
La meilleure des choses à faire est la coopération internationale. Nous avons plusieurs structures à disposition, notamment Europol, qui est donc basé à La Haye, aux Pays-Bas. Et dans le cas du dossier Bagdad, nous avons eu 4 réunions à Europol avec l'ensemble des partenaires européens concernés. Et nous avons échangé des informations, des données, ce qui a permis d'interpeller à peu près 77 personnes à travers toute l'Europe.
Commerce florissant. Chaque clandestin dans cette affaire Bagdad payait entre 10 et 12 000 euros pour venir du Kurdistan et pour espérer arriver en France avant de rejoindre l'Angleterre. Ces nombreux réseaux démantelés par l'Ocriest lui donne une légitimité internationale et de nombreux policiers étrangers viennent en France pour s'inspirer des méthodes et des techniques de cet office. Le commissaire divisionnaire Jean-Michel Fauvergue.
La police aux frontières a créé cet office il y a un peu plus de 10 ans. Ça. Donc c'est un précurseur en ce domaine au niveau européen. Donc on a une certaine expérience dans ce domaine-là. Ensuite, on explique ça par la technicité, la qualité des affaires qui sont sorties par cet office. Donc la notoriété de cet office au niveau européen en particulier n'est plus à démontrer. La troisième explication, c'est que nous, on travaille beaucoup, notre office travaille beaucoup avec les organisations européennes comme Europol, Eurojust. Et Europol nous permet aussi de nous développer à l'international.
Une autre mission des membres de ce service est la lutte contre le travail clandestin et les employeurs de clandestins. Ce soir-là, un restaurant japonais d'Ivry-sur-Seine va être contrôlé.
Ouais, on est positionné. Par contre, il y a du monde dans le hall, ça discute. Et on risque de... On sait pas, mais on risque de se faire cramer, donc je pense qu'il faut pas trop attendre avant de lancer le contrôle. Ok. Allez, on procède au contrôle. Ok. Ciao. C'est parti pour le contrôle. Nationalité.
I'm the room. This is the passport and the tourist.
The tourist?
Yeah.
Are you working here?
This is my friend.
Le lieutenant Gilles, chef adjoint du groupe Asie à Locri Est.
Ce soir, nous sommes venus pour contrôler le restaurant, donc une restauration de type japonaise. Et nous avons donc, à l'issue du contrôle, constaté qu'il y avait 4 employés en situation irrégulière, qui n'avaient pas d'autorisation de travail, ainsi que 2 personnes en situation régulière, mais qui gèrent le restaurant. À ce titre, l'ensemble des personnes que j'ai citées sont placées aujourd'hui en garde à vue pour travail dissimulé et emploi d'étrangers sans titre.
Au siège de Locri Est, en banlieue parisienne, les officiers de liaison sont présents, espagnols, allemands et italiens entre autres. Le but est d'améliorer et de renforcer les relations bilatérales contre la criminalité et l'immigration clandestine. Le commissaire Serge Sabourin de la police fédérale belge.
Il s'agit de recueillir les informations qui proviennent du terrain, notamment pour ce qui nous concerne les Belges et les Français, les informations relatives aux filières dont la destination est par exemple Calais et dont l'origine se trouve Moyen-Oriental ou le sous-continent indien. Et donc, à partir des éléments qui sont recueillis sur le terrain, numéro de téléphone, carnet d'adresse, etc., les recoupements sont effectués et les échanges sont assurés de la manière la plus rapide, c'est-à-dire, je dirais, dans la journée même, quoi.
Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime, près de 300 000 Africains pénètrent chaque année clandestinement dans l'Union européenne. 80% d'entre eux utilisent les services d'organisation de trafiquants. Pour lutter contre ces réseaux internationaux, les polices européennes renforcent leur coopération. Luis Aparicio, policier espagnol, est aussi un officier de liaison auprès de la police aux frontières.
Tous les domaines de la criminalité aujourd'hui sont des phénomènes internationaux. Entre la France et l'Espagne, il y a une base commune d'immigration, d'origine de l'immigration irrégulière. Par exemple, comme nationalité du Maroc, de toute l'Afrique, qui vient, reste en Espagne, qui vient passe en France, ou bien de l'autre côté, de pays de l'Est, qui traverse la France, et qui utilise comme base parfois la France, pour passer en Espagne. Et aussi de latino-américains, notamment les Brésiliens.
Ces démantèlements de réseaux sont de plus en plus nombreux ces dernières années, grâce notamment à la coopération internationale. Mais presque à chaque fois qu'un trafic de clandestins meurt, un autre naît. Reportage Olivier Charman, réalisation Marc Minatel.